Bonjour à tous. Parce que l'économie est avant tout une affaire de confiance, nous allons tenter cette semaine de retrouver foi en l'avenir en compagnie de trois grands économistes et historiens. André Orléans, Yann Algan et Joanne Chapoutot examineront avec nous les liens entre confiance et croissance en cette période de grande incertitude. Mais d'abord, comme chaque lundi, place à notre table ronde d'actualité économique consacrée aujourd'hui au coût caché du capitalisme. Si la dette des États continue de se creuser sous l'effet de la pandémie, il est une autre dette qui menace bien plus profondément l'avenir de nos sociétés, la dette écologique. Merci d'être avec nous et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour évoquer la dette écologique et le déclin de la biodiversité, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à distance trois invités. Harold Levray, l'économiste de l'environnement, professeur à AgroParisTech et chercheur au CIRED. Aurélie Trouvé, économiste à AgroParisTech et coprésidente d'Attaque France. Et Claire Tutenuy, déléguée générale de l'Association française des entreprises pour l'environnement. Une émission que vous pouvez écouter, comme toutes celles qui précèdent, sur franceculture.fr et sur l'application de podcast Radio France.
To put it simply, the state of the planet is broken.
Pour dire les choses simplement, la planète est dans un piètre état. Mes chers amis, l'humanité fait la guerre à la nature. C'est une entreprise suicidaire. Car la nature répond toujours coup pour coup, et elle le fait déjà avec une force et une fureur de plus en plus grandes. La biodiversité s'effondre, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, les écosystèmes disparaissent sous nos yeux. Les déserts gagnent du terrain, les zones humides sont en train de disparaître. Et comme les êtres humains et le bétail empiètent de plus en plus sur les habitats des animaux et perturbent les espaces sauvages, il n'est pas impossible que nous voyions davantage de virus et d'autres agents pathogènes passer des animaux aux hommes. Mes chers amis, soyons clairs. Les activités humaines sont à l'origine de notre plongée dans le chaos. Mais cela signifie aussi que l'action humaine peut nous aider à nous en sortir. Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du XXIe siècle. Ce doit être la première priorité, la priorité absolue pour tout le monde, partout.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lors d'un discours prononcé il y a quelques jours à l'Université de Columbia, à New York. Alors, la prédation sur les ressources s'est intensifiée au cours des 50 dernières années. C'est la conclusion du rapport 2019 de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Malgré l'urgence, les écosystèmes continuent de se dégrader, Harold Levray.
Oui, effectivement, on est sur une situation où la plupart des indicateurs liés à la biodiversité continuent à se dégrader. Donc on n'a de fait aucune ambiguïté sur le fait que la biodiversité est véritablement en grand danger.
En grand danger, et cela rend particulièrement difficile l'atteinte des objectifs pour 2030. Aurélie Trouvé, ça aussi, c'est l'un des constats de l'IPBES.
Oui, tout à fait, qui constate en somme que sur un total de 8 millions d'espèces, il y en aurait 1 million qui sont menacées d'extinction, c'est-à-dire un taux d'extinction, je cite, sans précédent et qui s'accélère, et avec des effets très graves sur les populations humaines du monde entier. Et je crois que c'est important aussi de le noter, c'est le lien qui est fait avec les activités humaines, c'est-à-dire qu'il est dit que c'est essentiellement du fait des activités humaines, ce qui nous amène à une responsabilité en termes de transformation profonde de nos manières de produire et de consommer, et donc des politiques publiques qu'il faut mener pour ça.
Responsabilité des activités humaines et notamment responsabilité des entreprises. Claire Tutenuy, ça c'est quelque chose qu'il faut commencer par souligner.
Oui, tout à fait. Responsabilité de l'ensemble de notre modèle de développement et donc d'un certain nombre d'activités économiques. Le les entreprises ont commencé à prendre conscience de leurs impacts et de leurs dépendances. Alors pour certains secteurs, il y a déjà un bon moment, les infrastructures linéaires, les réseaux et l'énergie, les carrières. Mais pour un grand nombre d'autres entreprises, ces impacts sont difficiles à relier à leur activité. Quand vous êtes une banque ou une industrie un peu vers le de consommation, vous voyez assez mal le rapport avec la biodiversité. Et ce qui est très récent, c'est cette prise de conscience de liens indirects et des impacts indirects. Le Covid, dans cet esprit, on peut dire que l'année 2020 va être l'année de prise de conscience par les entreprises que les risques entraînés par la perte de biodiversité sont des vrais risques très importants et que donc, en effet, ils font s'en occuper même si c'est des risques diffus. Et donc, il y a cette réalisation qui avait été un peu progressive et qui a été très accélérée cette année.
Tout l'enjeu, ça va être effectivement de mesurer l'impact des entreprises, de l'activité humaine sur le déclin de la biodiversité. On va y revenir, mais d'abord, il faut souligner que le premier facteur de dégradation de la biodiversité, c'est le changement d'utilisation des terres. Et là, c'est l'agriculture, mais aussi l'exploitation forestière et l'urbanisation qui sont en jeu, Aurélie Trouvé.
Oui, alors je peux par exemple plus particulièrement détailler sur la question agricole. On a aujourd'hui énormément de rapports scientifiques, la Commission européenne elle-même le concept qu'il y a une dégradation très rapide des indicateurs de biodiversité sur les surfaces agricoles et qu'une grande partie du déclin du nombre d'oiseaux et d'insectes sur ces surfaces et du nombre d'espèces peut être attribué aux activités agricoles et un mode de développement en place, en particulier depuis les années 50, avec en somme la diminution des haies, des mares, des bosquets, des prairies, la hausse de l'utilisation des produits phytosanitaires, l'augmentation de la taille des parcelles, la simplification des rotations de cultures, et en plus c'est des évolutions qui peuvent se retourner contre la production agricole elle-même. Puisque, par exemple, je donne juste un exemple, la baisse du nombre de pollinisateurs est très inquiétante pour la production agricole elle-même, puisque ces pollinisateurs permettent la reproduction des plantes. Donc voilà, on a clairement aujourd'hui un mode de développement agricole qui n'est pas compatible avec la réponse à la crise de la biodiversité.
Et en même temps, il y a aussi sur la planète, Aurélie Trouvé, un grand nombre de petites exploitations agricoles, anciennes ou nouvelles, qui, elles, contribuent à préserver la biodiversité.
Oui, tout à fait. Il est important, évidemment, de ne pas tout mettre dans le même sac. Vous avez tout à fait raison. Il y a aujourd'hui des modes de développement agricole dits alternatifs. Je pense à ce qu'on appelle l'agriculture économe autonome, évidemment aussi à l'agriculture biologique, même si on peut souligner certaines limites. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui on sait qu'on peut produire de manière durable et sur le plan écologique, social et social, économique et environnemental, mais à condition de changement des systèmes de production profonds. Et ça demande, on y viendra, des politiques publiques très fortes, des changements de politiques publiques très forts pour pouvoir enclencher ces changements de système de production.
Alors il y a l'agriculture et l'urbanisation qui sont des causes importantes de dégradation de la biodiversité. Les zones urbaines ont plus que doublé depuis le début des années 90, Harold Levrel, et il faut dire que la population a considérablement augmenté et que la consommation de matières premières par habitant également.
Oui, alors en fait, sur ce sujet de l'artificialisation des sols, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une croissance de l'urbanisation et l'artificialisation des sols qui est plus que proportionnelle à celle de la population. Donc en fait, on consomme proportionnellement de plus en plus d'espace pour se loger, pour réaliser des activités économiques. Et effectivement, dans un pays comme la France et plus largement en Europe, c'est une des principales sources d'érosion de la biodiversité avec l'usage des sols.
Alors, il y a...
De manière générale, c'est-à-dire usage agricole, notamment l'utilisation de produits phytosanitaires.
Et l'un des enjeux, c'est les ressources en eau, puisque près des trois quarts des ressources en eau douce sont consacrées à l'agriculture et à l'élevage. C'est quelque chose qui accroît évidemment les tensions sur l'eau, Harold Levrel, entre les régions et entre les pays.
Oui, alors, sur la question de l'eau, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la part la plus importante de la consommation de l'eau provient du monde agricole, qui effectivement va pouvoir générer quelque part une dette par rapport à la capacité à renouveler en fait cette ressource. Et donc, c'est un point effectivement important, c'est une ressource parmi d'autres qui est sous tension. Oui.
une ressource sous tension. Et alors, ce qui est souligné par un certain nombre d'experts, Claire Toudenuy, c'est également, on l'a dit, l'exploitation forestière, l'exploitation du bois qui continue à augmenter dans les pays en développement, même si elle ralentit dans les pays développés. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet de l'exploitation forestière, Claire Toudenuy?
Alors, il faut dire que l'exploitation forestière, d'abord, une forêt, ça produit un très grand nombre de services. Ça produit à la fois la production de bois, la production de branches et d'énergie, mais ça absorbe du carbone et ça produit la biodiversité, l'enrichissement des sols, etc., puisqu'il y a beaucoup de choses qui tombent sur le sol et qui stockent du carbone de cette manière-là également et qui maintiennent la biodiversité. Donc aujourd'hui, on voit plusieurs problèmes. On voit un premier problème massif qui est la déforestation, et qui est faite par coupe du bois et brûlage. Donc ça, c'est quelque chose qui relargue énormément de carbone dans l'atmosphère. On voit de l'exploitation forestière plus ou moins intensive, et qui donc va plus ou moins prendre en compte la biodiversité. Une forêt d'eucalyptus, c'est monospécifique, ça consomme de l'eau, c'est effectivement mauvais pour la biodiversité. En revanche, ça produit du bois. Une forêt mixte, gérée durablement, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas coupée de temps en temps, ça veut dire que quand elle est coupée, on y laisse des vieux arbres, des îlots de biodiversité, donc on sait faire aujourd'hui de la gestion forestière durable, qui est à la fois une façon de stocker du carbone, parce qu'une fois que vous avez fait des coupes pas complètes, en laissant quelque chose, mais vous avez à la fois stocké du carbone dans le bois que vous avez enlevé, et en même temps, ça redynamise et ça relance l'absorption de carbone et d'ailleurs l'évolution de la forêt en termes de biodiversité. Donc une forêt, c'est plutôt... il faut pas se dire il faut rien faire avec les forêts. Il faut quand même arriver à les exploiter. Tous les scénarios... aujourd'hui de maîtrise du changement climatique suppose d'exploiter les forêts sans toutefois ne détruire la biodiversité. Donc il y a un compromis à trouver qui est important.
Un compromis qui est difficile à trouver parce que...
mettre en croissance.
Pardon de vous couper, Claire Toutenu, mais ce qu'on constate, c'est que il y a des régions où l'abattage illégal se fait de façon intensive, et c'est notamment l'un des grands enjeux aujourd'hui.
La déforestation est en général très illégale c'est des choses qui sont réglées par les lois des pays qui exploitent. Aujourd'hui, le Brésil a décidé que il laisse faire la déforestation. Il y a des pays africains où il n'y a pas tout à fait assez de gouvernement pour appliquer les lois existantes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en Europe, par exemple, l'exploitation forestière, elle est en général durable. Il y a toujours quelques mauvais, mais elle est faite en général de façon durable et qui produit du bois.
Parlons justement de l'Amazonie, parce qu'effectivement, la déforestation s'est accélérée. Elle a atteint son plus haut niveau cette année depuis 2008. En 12 mois, c'est l'équivalent de la superficie de la région Île-de-France qui a été rasée. Il y a une véritable crainte en Amazonie, Aurélie Trouvé, d'atteindre un point de non-retour. C'est-à-dire que passer un seuil critique, la forêt ne pourra plus se régénérer.
Mais je crois que vous soulignez quelque chose qui est important, c'est l'idée que je crois que ça rejoint, ça interroge la notion de dette par ailleurs. Hein. C'est que en fait, il y a une certaine irréversibilité à la destruction des ressources, des écosystèmes. C'est-à-dire que dans l'idée d'une dette, normalement, on se dit bon, elle est remboursable, donc pas de souci. En réalité, il y a une destruction qui est parfois définitive des capacités présentes et futures de la Terre à être habitable. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être cette limite-là autour de la dette écologique quand on de la notion de dette écologique, et vous avez raison de le souligner avec, par exemple, la question de la destruction de la forêt amazonienne. Moi, il y a une deuxième réflexion à laquelle ça m'amène aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure et je pense qu'on va l'aborder plus en détail, la responsabilité aujourd'hui des politiques publiques. En l'occurrence, vous savez qu'il y a quand même un accord qui est beaucoup d'actualité, un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, hein, les pays... un certain nombre de pays d'Amérique latine, qui par exemple posent extrêmement question sur les impacts en matière de destruction de la forêt amazonienne pour diverses raisons. Hein. Donc voilà, c'est la question, elle est aujourd'hui, il y a effectivement une destruction, mais quelle est Par ailleurs, la responsabilité aujourd'hui des politiques publiques dans l'affaire, on n'est pas sur une trajectoire aujourd'hui favorable. Je pourrais revenir sur la question, je vous disais, de l'agriculture. Hein. Vous me disiez, il y a des niches quand même d'agriculture biologique, etc. Oui, ok, mais aujourd'hui, l'agriculture biologique est une niche. Elle n'est que 8% de la surface agricole utile en France, alors qu'il y a un objectif du Green New Deal européen qui est de 25%, et nous n'en sommes pas du tout sur cette trajectoire-là. Il y a un objectif de baisse de 50% des produits phytosanitaires, de l'utilisation des produits phyto en Europe. On est plutôt en train d'augmenter cette utilisation. Il y a un objectif d'augmentation des surfaces de prairies. Au contraire, elles sont en train de régresser. Donc, la question, elle est aujourd'hui sur quelle trajectoire on est, et est-ce que les politiques publiques actuelles y répondent?
Et de la même façon pour les forêts, et finir ce sujet de l'exploitation forestière, Claire Tutenui, au niveau mondial, la superficie des forêts plantées augmente dans certaines régions, mais ça ne suffit pas à compenser l'ampleur de la déforestation.
Tout à fait. On a aujourd'hui, un des grands risques de l'effort de décarbonation que le monde a compris qu'il fallait accélérer, c'est le recours à la biomasse, et les entreprises commencent à en être extrêmement conscientes. On a organisé la semaine dernière justement une série de webinaires pour dire attention, si tout le monde remplace les fossiles par de la biomasse, on va avoir une exploitation exagérée de biomasse, qu'elle soit prairie ou forêt, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde.
Alors on va essayer, Claire Tutenui, parce qu'on vous entend assez mal, on va essayer de recréer la connexion pour parfaitement vous entendre, parce qu'on risque de rater certains éléments. On va essayer de voir comment rétablir cette connexion. Et je voudrais entendre peut-être Harold Levrel sur une autre question qui est celle de l'exploitation minière. Elle occupe moins de 1% des terres, mais elle a augmenté de façon spectaculaire, avec là encore de graves conséquences sur la biodiversité.
Alors oui, donc je ne suis pas spécialiste de l'exploitation minière, mais si on veut faire le lien avec la question des forêts, on sait qu'une partie de ces exploitations ont lieu dans des espaces qui sont des espaces naturels de grande valeur. Si on est sur des mines qui se déploient dans des écosystèmes forestiers tropicaux, ben on a des dégâts très importants, qui par ailleurs en fait ont des effets indirects complémentaires, c'est-à-dire que quand une mine se développe, on va construire des routes pour rejoindre cette mine, on va aussi créer des dynamiques démographiques importantes de concentration de la population, avec des rejets qui sont très polluants, très néfastes dans les cours d'eau, qui se répandent ensuite dans les sols, donc tout un cycle qui derrière peut avoir des conséquences sanitaires significatives. On doit à mon avis aussi prendre en compte le fait que on peut pas porter le même diagnostic sur l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Ça vaut pour les mines comme ça vaut pour la déforestation. Très clairement, les surfaces forestières augmentent dans l'hémisphère nord, mais on sait que c'est une augmentation qui est notamment liée à des espèces de résineux, hein, des essences de résineux qui génèrent beaucoup moins de biodiversité que les espèces de feuillus. Et par ailleurs, dans l'hémisphère sud, on a une déforestation en l'occurrence qui donc va être moins importante proportionnellement que l'extension des forêts dans l'hémisphère nord, mais qui en fait par contre proportionnellement génère beaucoup plus de pertes de biodiversité. Et en fait, souvent ce qu'on constate, c'est que de toute façon on n'a pas le même diagnostic possible du point de vue écologique, mais aussi du point de vue humain. Dans les pays du Sud, on est souvent dans des situations de tension sur ce qui concerne les dynamiques socio-économiques, avec beaucoup plus évidemment de situations de pauvreté et de vulnérabilité, donc des stratégies qui vont vers au plus pressé, hein, c'est-à-dire c'est des ressources qui sont disponibles, y compris si c'est des forêts primaires qui sont devant nous, eh bien on les exploite et on n'a pas d'autre choix. Dans les pays du Nord, il y a souvent cette idée qu'on a quand même le choix. Donc on peut pas non plus tout mettre au même niveau. Et c'est ça un des problèmes aussi qu'il faut appréhender, quoi.
Et c'est un des problèmes dans les négociations autour des questions écologiques entre le Nord et le Sud. Mais ce qui inquiète particulièrement aujourd'hui, en cette période de pandémie, c'est que la perte de biodiversité entraîne une augmentation des pandémies. Écoutez à ce sujet Anne Larigaudy, secrétaire exécutive de l'IPBES. L'IPBES, donc ce qui est à biodiversité, ce que le GIEC est au climat. Elle était invitée de la grande table d'Olivia Gesbert le 5 février 2020.
Ce qui se passe en fait, c'est que ce sont les activités humaines qui permettent au virus de se transmettre depuis ces animaux hôtes jusqu'aux humains en favorisant les contacts entre les êtres humains et ces animaux infectés. Alors, quelles sont ces activités donc qui permettent d'augmenter, de favoriser ces contacts? En premier lieu, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des terres, en particulier la déforestation. pour faire place bien souvent à l'expansion agricole, pour l'élevage du bétail ou pour l'urbanisation en particulier. Donc le déboisement à grande échelle, c'est vraiment un des grands facteurs qui cause ces contacts plus importants et qui va ensuite favoriser le débordement, en anglais on dit spillover, entre ces maladies qui jusqu'à maintenant étaient présentes mais de manière contrôlée dans l'environnement et puis les populations humaines.
Aurélie a trouvé, il y a un vrai risque que les pandémies se multiplient avec le coût sanitaire et économique que cela implique.
Oui, bah c'est en tout cas effectivement ce qui est souligné aujourd'hui par l'IPBES et par un certain nombre de scientifiques, voilà, et d'institutions internationales. Et ça montre d'ailleurs que c'est pas seulement ce que nous vivons n'est pas seulement une crise sanitaire, hein, c'est une crise écologique, c'est une crise du mode de développement. C'est-à-dire, ce qui est souligné, c'est la façon dont notre mode de développement amène un certain nombre de changements, et notamment donc cette crise de biodiversité, et qui du coup devient un danger même pour la vie humaine, hein, voilà. Et du coup, qui devrait conduire à des changements systémiques ou radicaux au sens de remise en cause des racines du système du mode de développement actuel. Et juste une remarque aussi, c'est que là, on parle de de l'apparition du virus, mais il y a aussi un certain nombre d'études scientifiques qui montrent que, par exemple, la propagation du virus peut être accélérée par la présence des particules fines dans l'atmosphère. Enfin, il y a un certain nombre d'autres articles scientifiques. Alors moi, je suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'autres articles scientifiques qui soulignent d'autres effets de cette crise écologique, de cette pollution des milieux, notamment sur la crise sanitaire et son aggravation.
Vous avez soulevé, Aurélie Trouvé, cette question de la dette écologique, qui est notre sujet aujourd'hui. Harold Levrel, peut-être pouvez-vous nous rappeler à quoi renvoie cette notion et aussi d'où elle vient?
Oui, alors en fait, c'est un peu une métaphore économique, hein, cette idée de dette qu'on applique à la nature, donc. Alors, l'idée, c'est en fait une dette, c'est pour résumer, hein, c'est si on dépense plus que ce qu'on gagne, eh bien, on accumule une dette. Bon, dans le domaine de la nature, quelque part, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on utilise plus de nature qu'on ne la recrée ou qu'on ne la restaure ou qu'on ne l'entretient. Et en l'occurrence, c'est ça qui fait qu'on accumule une dette au fil des années vis-à-vis de la nature.
Et avec la question de pourra-t-on la rembourser, en effet, comme le disait Aurélie Trouvé, certains services que nous rendait la nature et qui ont disparu ne pourront pas être remplacés d'ores et déjà.
Tout à fait. Alors, ça aussi, c'est des distinctions importantes à réaliser. C'est quand on détruit une nature qui a déjà subi, entre guillemets, les impacts d'activités humaines depuis des décennies ou voire des siècles, comme c'est le cas d'une part de la biodiversité qu'on peut qualifier, entre guillemets, de commune, celle qui est autour de nous, parfois, eh bien, en fait, quelque part, elle subit une destruction et potentiellement, on est en capacité de restaurer le même type de milieu à proximité si elle n'avait pas une grande richesse, si c'était une zone humide, mais qui finalement est une zone humide qui était assez dégradée déjà. Bon, cette destruction, elle n'a pas un facteur irréversible. On peut la restaurer à côté. En revanche, évidemment, s'il s'agit d'une tourbière multicentenaire, d'une forêt primaire, d'un écosystème qui a eu une évolution vraiment très longue, très riche, sans activité humaine, bon là, c'est totalement irréversible. Donc, il faut déjà pouvoir qualifier ça. C'est un point important. Et donc la notion de dette, effectivement, à un moment donné, elle est même plus opérationnelle. C'est-à-dire que, en fait, vu que c'est irréversible, on n'a pas de remboursement, on n'a pas de réparation possible. Mais effectivement, pour une partie de la nature, on peut admettre qu'on peut la compenser, la réparer pour les préjudices qu'elle subit. Et là, il s'agit d'opérer aussi une distinction. On peut considérer la nature soit du point de vue du capital qu'elle fournit aux êtres humains. Je dirais que c'est l'approche classique. Hein, on a tendance à envisager aujourd'hui, quand on parle d'une dette écologique, on considère un peu la nature comme un actif dont bénéficie notre société, parce qu'elle offre plein de bénéfices à notre société, que ce soit des activités récréatives, que ce soit le fait qu'elle filtre l'eau, qu'elle fournit des espaces où on peut se mettre quand on a des périodes de canicule pour bénéficier de phénomènes de rafraîchissement. Enfin bref, elle a des tonnes de services comme ça qu'elle nous offre, la nature.
Et donc ça, c'est l'économie classique qui a cette approche-là, Harold Levrel, oui.
Oui, c'est une vision instrumentale finalement de la nature, une nature qu'on utilise pour nous, êtres humains. Mais il y a une autre vision qui est que la nature peut aussi avoir une valeur intrinsèque. Et dans ce cas-là, on passe à une autre manière d'envisager la dette. De ce point de vue-là, en fait, on considérerait que la nature, et on le considère déjà, hein, il y a des reconnaissances de cette situation dans la loi, notamment dans le cadre du préjudice écologique, hein, qui est un principe de droit qui a été adopté dans la loi de 2016, mais la nature, elle a le droit, en fait, à ce qu'on reconnaisse les préjudices qu'elle subit pour elle-même. Mmh. En dehors de toute considération de son utilité pour l'homme, pour les êtres humains, et de ce point de vue-là, on peut aussi considérer qu'il y a une dette à partir du moment où on utilise la nature pour notre bien-être, hein, en l'exploitant, eh bien, on lui retire une partie de ses composantes. Eh bien, ces composantes, en fait, qu'on lui a retirées, ça représente une dette qu'on enclenche vis-à-vis d'elle. Alors, en tant qu'entité, ça ne veut pas dire la personnifier, hein. Je tiens à distinguer ça. On ne la personnifie pas, mais on considère qu'elle a une valeur pour elle-même. Et dans ce cas-là, en fait, on peut déployer cette logique de la dette, hein, et de l'accumulation de la dette pour un grand nombre de dynamiques qu'on entretient avec elle, évidemment. Je pourrais revenir là-dessus en plus.
C'est intéressant ces différentes approches de la question écologique par la discipline économique. Qu'est-ce que vous inspire, Claire Tutenu, et dans quelle approche est-ce que vous vous situeriez ?
On essaye effectivement, dans le monde économique, c'est intéressant d'avoir des indicateurs chiffrés parce qu'on sait à ce moment-là se donner des objectifs, se donner des mesurer ce qu'on fait. Et en particulier, si on arrive à donner une valeur, eh bien, ça engendre des comportements économiques de maximisation de cette valeur. Donc, il y a beaucoup de travaux actuellement, et Harold en est un des premiers, qui essayent de donner une valeur à la nature avec un certain nombre d'indicateurs. Et les membres de PE, ils travaillent d'ailleurs avec des gens comme Kering, par exemple, sont assez avancés sur le sujet. Donc oui, arriver à intégrer, dans certains cas, la nature dans le modèle économique, en reconnaissant les services écosystémiques et en leur attribuant une valeur qui est un petit peu, comme c'est un bien commun, c'est une valeur qui va être un peu conventionnelle, mais quand même, ça va produire des effets. Et donc, c'est par exemple, Kering attribue de la valeur au fait qu'un certain nombre de pâturages en Asie pour des chèvres à Cachemire ne soient pas surexploités, parce que ces pâturages fournissent des services à condition d'être biodivers et en bonne santé, et donc ça va les conduire à limiter le nombre de chèvres qu'on laisse pâturer, donc donner une certaine valeur à la fois à la qualité de la laine de ces chèvres, enfin du poil de ces chèvres, et au territoire sur lesquels elles pâturent.
Alors on peut donner de la valeur.
On arrive à faire des modèles économiques.
On peut donner de la valeur au service, enfin on peut mesurer le coût de la disparition de ces services rendus par la nature, Harold Levrel, mais on peut aussi évaluer le coût des actions à réaliser pour atteindre nos objectifs écologiques.
Oui, tout à fait. On a conventionnellement donc deux manières d'envisager les choses, et c'est des choses qui sont établies aussi bien du point de vue de la comptabilité nationale que de la comptabilité d'entreprise. On peut considérer, donc encore une fois, la nature comme un actif, hein, et dans ce cas-là, la méthode qu'on utilise, c'est comme n'importe quel actif, on essaye d'établir une valeur monétaire, financière, associée à des composants de la nature. Bon, très vite, on se rendra compte, quand on essaye de faire cet exercice, qu'il y a des limites importantes, hein, à ce type de travail, parce que il y a une grande partie de la nature qui est non fongible, non traduisible en valeur monétaire. Et donc, de ce point de vue-là, on va réussir à faire cet exercice pour un certain nombre de bénéfices qui ont généralement des conséquences très concrètes sur l'activité économique. Par exemple, les pollinisateurs. Bon, si on a une disparition de certains insectes pollinisateurs qui vont réduire les rendements agricoles, ça, on peut comprendre qu'on attribue une valeur monétaire aux services de pollinisation, pas aux insectes, hein, je tiens à préciser cette différence. Et on ne donne pas la valeur des insectes, on donne la valeur du service de pollinisation qu'ils fournissent. Donc ça, c'est l'approche financière. Mais on peut aussi considérer que ces insectes, leur valeur ne se résume pas au fait qu'ils pollinisent des plantes, mais au fait qu'ils sont importants pour la biodiversité dans l'ensemble. Ils sont aussi importants parce que, quelque part, on leur attribue une valeur intrinsèque. Et puis, pour toute la chaîne alimentaire, ils ont un rôle fondamental, hein. Si on observe une disparition des oiseaux inféodés au milieu agricole, c'est bien parce que les insectes disparaissent du fait de l'usage intensif de pesticides. Et donc, on peut considérer ces insectes comme devant être maintenus sur notre planète, parce que c'est important pour plein de raisons non strictement économiques. Et là, en fait, on va avoir une évaluation économique qui consiste à mesurer le coût du maintien de ces insectes. Alors, ça veut dire quoi, mesurer le coût du maintien de ces insectes? Ça va pouvoir dire combien on va devoir dépenser pour réduire l'usage des pesticides, combien ça va coûter de créer par exemple des friches apicoles, c'est-à-dire des friches où on va pouvoir retrouver des dynamiques de population d'abeilles, et ainsi de suite. Donc restaurer les milieux qui leur sont favorables, tout ça a un coût, et ça on peut le mesurer aussi d'un point de vue comptable. Vous voyez, donc ces deux approches, il n'y a pas nécessairement une obligation de les opposer, c'est pas, mais en tout cas, il faut admettre qu'elles n'ont pas les mêmes finalités. Et ça, c'est très important dans une analyse concrète d'un point de vue comptable de la dette.
Aurélie Trouvé, sur ces deux approches, et peut-être sur celle que défend ATTAC, que vous représentez en France.
Ben, je pense que oui, nous on a évidemment une critique de la première approche surtout, hein, qui est l'idée qu'on pourrait monétariser, qu'on pourrait donner une valeur monétaire aux services écosystémiques, aux biens naturels, avec effectivement, ça a été dit par Harold Levrel, le fait que c'est extrêmement compliqué d'abord d'attribuer un prix à la nature et que finalement... comme on pourrait le dire, cette nature n'a pas de prix. Comme quand on dit la santé n'a pas de prix, hein, la nature n'a pas de prix parce que ça a été dit, il y a des changements irréversibles qui atteignent, y compris la possibilité de vie humaine décente sur Terre dans les dizaines d'années à venir, par ailleurs. Hein. Et il y a alors. Pour autant, je crois qu'il faut le souligner, c'est que c'est quand même aujourd'hui une approche, je dirais quand même relativement dominante en économie, de vouloir donner une valeur monétaire. Et de mon point de vue, il y a aussi un deuxième risque qui est associé à ça, c'est le développement, c'est l'idée qu'en fait, par des marchés de biodiversité, de compensation de la biodiversité, on pourrait en fait s'attaquer au problème de la destruction de la biodiversité. Je m'explique. D'abord, ça part de l'idée que on peut faire confiance au marché pour allouer le plus efficacement possible les ressources et pour fixer un prix adéquat à la destruction ou à la préservation de la biodiversité. D'où l'idée de ces marchés de compensation de biodiversité, hein, où il y aurait des entreprises, des sociétés minières, par exemple, qui pourraient compenser la destruction de biodiversité en recréant des habitats naturels en échangeant pour ça des permis sur des permis de détruire la biodiversité sur des marchés, hein. Et ça, c'est quand même une approche qui a alors développée depuis les années 90 et notamment voilà à partir du sommet des Nations Unies à Rio, qui avec l'idée que ces marchés pouvaient gérer pouvaient répondre en partie à cette crise écologique et notamment de la biodiversité via donc la création de ces marchés de biodiversité. Et c'est voilà, il faut savoir que par exemple la Banque mondiale promeut, soutient ce type d'approche et donc ça reste quand même aujourd'hui une approche relativement portée par les institutions internationales. Et effectivement, il y a beaucoup aujourd'hui d'experts, d'économistes, de tout un tas, et puis évidemment d'associations, d'ONG qui critiquent fortement cette solution prônée passant par des marchés de compensation de biodiversité. Voilà, tout ça pour vous dire que cette première approche, dont je partage les critiques, elle mène quand même aujourd'hui à des politiques actives de promotion de marchés de biodiversité.
Alors justement, on va parler de ces politiques, comment réduire, comment empêcher le déclin de la biodiversité aujourd'hui. On pose la question à nos trois invités dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'est de nous réchauffer et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé.
quelques vertèbres. Où était l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre? L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé.
Julien Doré, La Fièvre sur France Culture. Entendez-vous, l'écho se poursuit en compagnie de Claire Tutenuit, Aurélie Trouvé et Harold Levrel. Nous parlons du coût caché pour nos économies que représente la perte de biodiversité dans le monde. Alors face à la pandémie, on a vu les gouvernements s'endetter massivement pour empêcher l'effondrement de l'économie et accélérer la transition écologique. C'était du moins l'objectif affiché par le Premier ministre Jean Castex le 15 juillet dernier.
Ce plan de relance, mesdames et messieurs les députés, sera un accélérateur puissant de la transition écologique. Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et la biodiversité, faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte.
Harold Levrel, le plan de relance du gouvernement et ses 20 milliards d'euros consacrés à la transition écologique, ce plan a-t-il une vraie ambition environnementale selon vous ?
Ça dépend de quel point de vue on se pose, mais moi ce que je trouve quand même assez dommage dans ce plan de relance, quand on annonce effectivement tous ces milliards sur la transition écologique, en fait on fait vite le constat que c'est pas une transition écologique, c'est une transition énergétique. On est quand même très large, à plus de 90% sur des éléments qui renvoient à la décarbonisation. Bon, c'est très bien, on peut s'en féliciter, hein. De mon point de vue, quand même, le grand oublié de tout ça, c'est le vivant. Et quelque part, on comprend bien, c'est des recettes assez classiques. On va quand même chercher à fournir un financement public à des secteurs d'activité avant tout, hein, et pas à un objectif de transition à proprement parler. C'est l'ingénierie civile, hein, pour faire court, qui va bénéficier de ce plan de relance. Ça n'est pas l'ingénierie écologique, hein, pour parler en termes de secteur d'activité. Du côté du vivant, en fait, c'est l'agriculture, hein, qui est la première visée. Et à ce stade, ce qu'on constate, c'est que le programme, il n'est pas si ambitieux que ça, hein. On peut considérer que les crédits d'impôt qui ont été annoncés là pour le label HVE, haute valeur environnementale, bon, c'est pas un label en soi, hein. Quelque chose qui a été pensé au moment du Grenelle de l'environnement pour imaginer une transition vers des modèles plus exigeants d'un point de vue écologique. Et on peut souligner donc qu'il y a 76 millions qui vont être donnés en crédit d'impôt pour le HVE, et pour le bio seulement 10 millions, hein, si je me trompe pas. Alors que le bio a quand même largement plus fait ses preuves en matière de transformation du modèle, même si encore une fois il s'agit pas de dire que c'est l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même un modèle qui permet d'avoir des garanties en termes d'arrêt des pesticides, du bien-être animal. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que moi la relance écologique, elle n'a d'écologique que le nom. Voilà.
Aurélie Trouvé, quand le gouvernement parle de produire une alimentation plus locale et durable, pour vous ce n'est que du déclaratif ?
Ouais, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Harold Levrel, hein, et par ailleurs, ça demanderait une cohérence de l'ensemble des politiques publiques. Enfin, dans le même temps, je rappelle par exemple qu'il y a la réintroduction La décision de réintroduire les néonicotinoïdes, ce qu'on appelle les insecticides tueurs d'abeilles, qui avaient été interdits pourtant en 2018, on les réintroduit pour traiter les cultures de betteraves à sucre, plutôt que, par exemple, d'avoir un grand plan de soutien de ces cultures pour les diriger, les orienter vers des pratiques agroécologiques et soutenir en même temps économiquement, mais d'une autre façon, ce secteur. Qu'est-ce qu'on décide ? On décide donc de réintroduire un insecticide qui pose énormément de problèmes quant à la biodiversité. Dans le même temps, on continue à négocier un accord, je le disais, de libre-échange avec le Mercosur, qui là aussi est extrêmement décrié sur le plan environnemental. L'accord avec le CETA, l'accord CETA avec le Canada, là aussi, qui a été extrêmement décrié sur le plan notamment du changement climatique, y compris par un rapport intergouvernemental, le gouvernement a toujours une position favorable. C'est toujours pas signé au niveau de l'Assemblée nationale, mais en tout cas, c'est en application déjà, parce que ça a été voté par le Parlement européen. Donc, vous voyez, il y a une incohérence entre, par ailleurs, ce plan de relance, dont je redis pas les critiques qu'a soulevé Harold Devrel, mais en plus, une incohérence avec des politiques, celle-ci, et puis j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, avec surtout la politique agricole commune qui est en train d'être négociée, qui va être décidée là dans les prochaines semaines pour les 7 ans à venir et qui clairement n'intègre pas les objectifs du Green New Deal européen, et ça a été montré par un rapport très récent d'ailleurs écrit par certains de nos collègues.
On va y revenir. Incohérence, nous dit Aurélie Trouvé, Claire Tutenu, est-ce qu'on peut pas en même temps voir une certaine cohérence dans ce paradigme de la croissance verte, c'est-à-dire que ce plan de relance soutient et favorise les entreprises qui peuvent faire de la croissance et de l'écologie en même temps?
C'est vrai que les membres de PE croient que l'écologie et l'économie ne sont pas forcément en contradiction, qu'il y a une voie fine qui consiste à avoir une économie en croissance et néanmoins faire la transition écologique et pas que énergétique. Je rejoins ce qu'a dit Levrel. Si vous prenez par exemple l'alimentation bio dont on a parlé tout à l'heure, le consommateur accepte de la payer plus cher, un peu, que l'agriculture, l'alimentation non bio. En cela, il révèle qu'il accorde de la valeur à la biodiversité, à l'entretien des sols, au bien-être animal, etc. Et le problème, c'est d'arriver à faire de cette année de Covid où on s'est tous posé des questions sur nos façons de vivre, me semble-t-il. Alors, il y en a qui vont repartir encore plus vite qu'avant parce qu'il faut en profiter, mais il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que l'alimentation locale et être un peu mieux maître de son alimentation et aller plus haut sur la qualité, ça améliorait la qualité de la vie, que finalement le tourisme en France, ça avait du bon. Et donc, je pense que c'est une année qui peut être une année de prise de conscience du fait que certaines politiques sont acceptables et sont nécessaires. On peut trouver que le gouvernement ne va pas assez loin. Bien sûr, il pourrait toujours aller plus loin.
Mais alors non seulement il ne va pas assez loin pour certains, mais...
Néanmoins, il y a quand même des choses qui se passent importantes au niveau de l'Europe, qui est que cette année, pour la première fois, après des années d'efforts, on remet en question la priorité absolue du libre-échange sur l'environnement. Donc la Commission européenne, avec toute sa lourdeur et ses 27 États, est en train de se dire... Il faut quand même que sur l'environnement, qu'on ne laisse pas rentrer des produits qui viennent de pays qui n'ont pas de politique carbone, on ne laisse pas rentrer des produits qui viennent de déforestation et on ne mette pas notre agriculture en concurrence absolue avec des pays où il n'y a pas les mêmes règles environnementales.
Alors il y a des avancées au niveau français et au niveau européen et en même temps ce que l'on constate c'est que on a vu en fin de semaine dernière que les relations se tendaient entre le président de la République et la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a déclaré dans une interview aux médias en ligne brute la semaine dernière, être très en colère contre des activistes qui l'ont aidé au début et qui maintenant lui disent qu'il faudrait tout prendre, ce sont ces termes, tout prendre du rapport rendu en juin par les 150 citoyens tirés au sort. Cyril Dion, le garant de la Convention citoyenne, estime au contraire que c'est le chef de l'État qui n'a pas respecté ses engagements. Qu'est-ce que vous en pensez, Harold Levrel ?
Oui, alors je dois vous avouer que je ne sais pas... un dossier que j'ai suivi dans le détail parce qu'à la fois je suis plus spécialiste sur les questions de biodiversité que de climat.
Mais c'est dans un contexte où on voit quand même qu'il y a eu un veto sur une taxe de 4% sur les dividendes qui avait été proposée par la Convention citoyenne. La proposition de limiter la vitesse à 100 km sur l'autoroute, ça a été rejeté. On a le sentiment, effectivement, comme le disait Claire Tutenu, que ça ne va pas assez loin.
Oui, Alors, par contre, mais ça, c'est un exercice tellement classique. Enfin, je veux dire, c'est presque totalement attendu. Hein. C'est-à-dire que, l'exécutif a pour tradition hein, de constituer des groupes dès que il veut faire exister un sujet. Ce groupe se réunit pendant un certain nombre de mois. Ça, c'est un exemple qui a été très médiatisé. Mais enfin, on retrouve ce type de dynamique à des échelles plus spécifiques.
Mais il y a des engagements assez forts qui ont été pris par le président de la République.
Mais, oui, mais en réalité, les engagements, enfin, si vous voulez, il a fait aussi un discours à Chamonix, hein, il n'y a pas très longtemps, hein, il n'y a pas un an, sur les engagements de la France en matière de biodiversité. Bon, le discours, vous pouvez le retrouver en ligne, il est extrêmement fort hein, en termes d'objectifs sociaux, politiques. Bon, on peut que faire le constat que c'est un discours de plus qui malheureusement ne va pas amener à des changements majeurs. Moi, je crois quand même beaucoup à ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que qui fait bouger les choses aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont quand même beaucoup les consommateurs qui sont devenus un peu des consommateurs citoyens de plus en plus. Le bio, c'est bien là pour en témoigner. Le bio ne bénéficie pas de subventions significatives en France comparativement au conventionnel. On est un des rares pays en Europe où la part des subventions que touchent les agriculteurs bio est plus faible que celle des agriculteurs conventionnels. C'est une sorte de, pas pour toutes les cultures, mais pour la majorité d'entre elles, et des élevages. On a de ce côté-là quand même des problèmes majeurs en matière de capacité à alimenter, d'un point de vue politique, la transition. Donc encore une fois, je le répète, je trouve que c'est, si on prend le bio, ce sont les consommateurs qui ont décidé qu'ils étaient prêts à payer plus dorénavant parce qu'ils voulaient entre guillemets acheter non seulement des pommes mais des pommes qui étaient produites d'une certaine manière, et puis quand on va dans certains distributeurs, on sait qu'aussi que ce distributeur il va produire des pommes, enfin vendre des pommes qui sont en circuit court hein, donc à proximité, et puis c'est des produits de saison, etc. Enfin en tout cas ça se complexifie la demande du consommateur, et on retrouve les mêmes des dynamiques un peu similaires dans le monde évidemment des associations qui créent des dynamiques de changement. On retrouve ça aussi, il me semble, au sein d'un certain nombre d'entreprises qui, finalement, après avoir fait du greenwashing, enfin, je parle de manière un peu générale, hein, mais aujourd'hui, ils voient bien qu'il y a un intérêt pour elles à adopter des innovations structurantes en matière de transition écologique. Bon, tout n'est pas, enfin voilà, il faut pas idéaliser tout ça, mais ce que je veux dire c'est que on voit en tout cas des choses plus stimulantes du côté des citoyens, des entreprises, des consommateurs, des associations que du côté de la force publique.
Aurélie, trouvez-vous
assez triste.
Aurélie, trouvez-vous partager ce point de vue?
Oui, tout à fait. Alors, je me permets de revenir sur ce qui était dit sur la complémentarité d'abord entre écologie et économie. Ça me semble vraiment un point très important parce que évidemment, je veux dire, moi c'est pareil. Je pense que effectivement, l'économie, enfin, c'est même pas qu'elle doit être complémentaire, c'est qu'elle doit être au service des besoins écologiques et sociaux. Pour moi, c'est la seule fonction de l'économie, c'est l'économie des besoins. C'est-à-dire que l'économie, c'est un outil, c'est une façon de produire, de consommer, d'organiser les échanges qui permet de répondre aux besoins écologiques et sociaux. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que par exemple, si on prend le cas de l'agriculture, hein, bon, vu que c'est mon domaine, je me permets de développer plutôt sur ce secteur-là. Si on prend le cas de l'agriculture, ben effectivement, aujourd'hui, il faudrait avoir des trajectoires, une transition qui permette à la fois de créer plus de valeur ajoutée dans les exploitations agricoles, de maintenir les emplois sur les emplois agricoles et de préserver l'environnement. Or, on sait le faire. Il y a aujourd'hui, ça a été montré par un tas d'études, qu'on peut avoir des et qu'il existe. Des exploitations agricoles qui remplissent cette triple durabilité, ces objectifs de triple durabilité économique, sociale, environnementale, mais ça demande des changements, des systèmes de production très profonds. Pour ça, il faut un accompagnement technique massif, notamment public. Il faut aussi des subventions massives qui aillent en faveur de ces transitions. Or, et je finirai là-dessus, parce que on revient à la question des politiques publiques. Or, on a montré, alors moi j'ai pu montrer, du moins une thésarde a pu montrer que, par exemple, quand les exploitations ont des effets potentiellement négatifs sur l'environnement, on a pu le montrer à partir d'un certain nombre d'indicateurs, et plus le montant moyen des subventions de la politique agricole commune est important. Par hectare. Donc, c'est-à-dire, je vais caricaturer un petit peu, plus vous polluez, plus vous touchez en moyenne d'aide de la PAC. Bon, il y a aujourd'hui un vrai problème hein, en ce qui concerne la PAC. Et donc, pourtant, là, pour les 7 ans à venir, alors qu'on a des enjeux environnementaux massifs, qu'est-ce qui se passe? On a au mieux peut-être une évolution à peu près identique des règles environnementales, et voire au pire, on risque d'aller vers au contraire un amoindrissement des contraintes environnementales à une échelle européenne. Ce qui par ailleurs va induire sans doute des risques de dumping environnemental, c'est-à-dire chaque pays étant tenté de diminuer ses propres règles environnementales dans l'espace concurrentiel européen. Voilà vers quoi on va. On ne va aucunement vers une obligation des pays à massifier redistribuer les aides vers des services environnementaux et sociaux. Donc, dans les faits, quand on regarde vraiment les faits, certes, il y a des grands objectifs, ça a été dit, ah oui, alors c'est sûr, la Commission européenne commence à dire, ah oui, le libre-échange, c'est pas bien, etc. Mais en fait, dans les faits, quand vous regardez sur les accords de libre-échange, ça continue à être négocié, et pour le CETA, c'est en application. Et puis dans les faits, quand vous regardez une grosse politique qui est la politique agricole commune européenne, hein, 50 milliards, 40 milliards par an, et ben là aussi, sur les 7 ans à venir, très probablement, on aura une politique agricole commune qui ne se sera pas améliorée sur plan environnemental, voire qui se sera détériorée. Voilà. Donc
alors c'est intéressant effectivement cette incohérence que vous soulignez, Aurélie Trouvé, entre d'un côté la politique agricole commune qui est actuellement en négociation pour les 7 ans à venir et les objectifs du Green Deal, le pacte vert européen. Mais je voudrais entendre Claire Tutenuis sur ce que disait tout à l'heure Harold Levrel sur le fait que c'est peut-être de moins en moins stratégique pour les entreprises d'avoir un impact négatif sur la biodiversité. Mais est-ce que le risque n'est pas plus grand pour les entreprises en protégeant davantage les écosystèmes, de perdre en compétitivité, de telle sorte que finalement, il n'y a pas encore tant d'entreprises que cela qui ont pris ce tournant, Claire Tutenuis?
Alors, il y a effectivement un problème de cohérence d'ensemble, c'est-à-dire que la transition, c'est une transition qu'aucune catégorie d'acteurs ne peut porter toute seule. Les pouvoirs publics ne peuvent pas faire ça qu'avec de la politique, les entreprises ne peuvent pas faire ça qu'elles-mêmes, parce qu'elles ont besoin de politique publique, et tout le monde a besoin du marché et du point de vue des valeurs, de ce à quoi les consommateurs, et qui sont aussi les électeurs, et qui sont aussi les employés, vont attacher du prix. Donc il y a des entreprises qui ont commencé à prendre, chez EPE en particulier, et on a lancé, il y a d'autres entreprises non-EPE qui ont rejoint, une initiative d'engagement pour la biodiversité, qui s'appelle Act for Nature, et qui consiste à dire que toutes les décisions, à faire en sorte que toutes les décisions dans l'entreprise soient prises en considération de leur impact pour la biodiversité. Et ça va des gens qui font l'entretien des sites industriels ou des sites de bureaux, etc., aux politiques d'achat, par exemple, qui ont un énorme pouvoir, parce que selon que vous spécifiez que vous voulez des parcelles de forêt gérées durablement ou pas, même si vous êtes à 5 ou 6 sous-traitants, eh bien, vous avez le produit que vous voulez.
Donc, mais comment savoir si ces engagements sont vraiment suivis, Claire Tutenuis?
Il y a en France des obligations de reporting. En plus, l'engagement, il est assis sur une obligation de reporter sur l'exécution de ces engagements. Donc, on va d'ailleurs publier en 2021 le premier rapport d'exécution des engagements pris en 2018 et qui auront donc été implémentés jusqu'en 2020. C'est disponible pour les parties prenantes. Enfin, voilà. Donc, c'est sous un contrôle public. Et normalement, alors, on peut dire que ça va pas assez vite non plus. Mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de politique, ça dépend des entreprises, c'est une initiative volontaire. Et après, il faut qu'il y ait aussi des citoyens qui posent des questions, il faut qu'il y ait de la pression. Les entreprises sont très sensibles à la pression et de leurs actionnaires. Et dans les entreprises engagées, il y a des grands investisseurs, des gestionnaires de portefeuille qui commencent à mettre ce sujet de la biodiversité dans ce qu'elles appellent leur dialogue actionnarial. Donc elles parlent avec les entreprises dont elles sont actionnaires en demandant qu'est-ce que vous faites pour le climat, et maintenant elles ajoutent qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité. Et quand l'actionnaire vous pose une question, c'est le patron qui regarde, et quand le patron regarde, il se passe des choses, parce que ce sujet, qui n'était pas du tout reconnu comme un sujet d'entreprise il y a 5 ans, du coup il l'est parce que c'est un sujet de valeur de l'action. Et donc, c'est un peu le capitalisme qui va se mettre au service de la biodiversité. Donc, ça n'empêche absolument pas le besoin de politique publique, parce qu'il s'agit très souvent de biens publics. Donc, ça peut en aucun cas être suffisant. Mais en tout cas, c'est une compréhension, une perception par beaucoup, une grande partie du monde de l'entreprise et de différentes fonctions que c'est important d'y penser.
Aurélie Trouvé, sur cette prise de conscience dans le monde des affaires et sur le rôle de la finance aussi, parce qu'on sait que les banques continuent encore à prêter massivement à des secteurs qui abîment la biodiversité.
Oui, alors après, on pourrait. Moi, je ne pense pas qu'on puisse laisser. Et c'est pas. Je dis pas. C'est pas du tout ce qui a été dit. Hein, mais voilà, on peut pas laisser au seul bon vouloir de des entreprises et de la logique actionnariale la préservation, enfin la réponse à la crise écologique. Parce que aujourd'hui, on a effectivement une logique actionnariale de plus en plus présente dans une économie financiarisée, voilà, et avec une logique de court terme. De rentabilité des capitaux à court terme qui prime. Or, la réponse à la crise écologique demande des perspectives de long terme et des perspectives liées au bien-être général qui et au bien public qui ne rentrent pas dans la logique actionnariale. Donc, c'est là qu'il y a besoin d'un État, d'une puissance publique à tous les échelons qui puisse d'abord réglementer, mettre des règles collectives dans le monde des entreprises, dans le monde marchand, pour pouvoir répondre justement à ces considérations écologiques. Moi, je fais partie de ceux qui, par ailleurs, prônent le fait qu'on aille vers, dans les conseils d'administration des entreprises, davantage de participation obligatoire des collectivités locales, des usagers, d'associations environnementales, des salariés eux-mêmes et de l'État, pour pouvoir justement prendre en compte dans ces décisions d'entreprise des logiques de bien public, de long terme et de bien-être général, qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans cette logique actionnariale de court terme.
Et les yeux aujourd'hui sont notamment braqués sur le secteur des assurances. L'enjeu, c'est qu'ils incluent ce risque environnemental. Alors, on arrive presque au terme de cette discussion. Un dernier mot, peut-être, Harold Levrel, sur la défense de la biodiversité, sur les moyens de cette protection, alors qu'on va fêter samedi les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat, et que la COP15, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, aura lieu en mai prochain à Kunming en Chine.
Oui, alors en fait, aujourd'hui, oui, on peut simplement faire le constat qu'on n'est pas armé, on n'est pas équipé pour faire face à l'érosion de la biodiversité. Le diagnostic, on peut le faire à plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau international, mais disons que là où on a pris, c'est-à-dire au niveau national, on a des choses qu'on peut faire changer. On a entendu parler de la déforestation importée. Clairement, on importe de la déforestation quand on consomme du soja ou quand on consomme de l'huile de palme. Ces deux produits, ce sont vraiment des produits qui génèrent de la déforestation directement, et c'est complètement lié au commerce international. C'est pas de la consommation locale. Donc on peut agir là-dessus. On peut agir aussi en appliquant la réglementation. On a une réglementation sur la biodiversité en France qui est devenue beaucoup plus exigeante depuis 2016, à travers un certain nombre d'innovations tout à fait intéressantes sur le terrain, mais qui en fait est très mal appliquée. On a malheureusement un taux de délits environnementaux qui sont non sanctionnés en France qui est très élevé, en fait le plus élevé pour toutes les catégories de délits. Donc en fait, dans ce contexte-là, on a beau mettre en place des réglementations exigeantes, vu qu'on a très peu de chances d'être sanctionnés, eh ben on ne les respecte pas, tout simplement. Donc ça n'est évidemment pas incitatif. Il ne s'agit pas d'adopter des lois exigeantes, après il faut les faire appliquer. Et puis, quelque part, on mesure encore les choses de manière erronée. On a besoin d'une comptabilité qui prenne en compte les dimensions écologiques pour qualifier de manière beaucoup plus appropriée ce que c'est que la richesse, ce que c'est que la dette. Et ça, c'est des choses dont on a vraiment besoin. En résumé, je dirais qu'on a besoin d'une planification écologique aujourd'hui pour véritablement accompagner la transition qu'on espère voir venir le plus vite possible.
Un besoin d'une planification écologique, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois, Harold Levrel, Aurélie Trouvé et Claire Toutenuit, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Harold Levrel, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage paru cette année à la Découverte, Les compensations écologiques, c'est son titre. Merci d'avoir été avec nous.
And I don't know why, but it hurts. It's not about the things you do. It's not about the things you say. And I don't know why, but it hurts my feelings again. It's not what we wanted to. We've grown, but I'm afraid we've changed. I don't. If it's over now, would you let me go?
C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Déborah Dagobert et Clara Galivelle. Demain, premier épisode de notre série consacrée à la confiance. On essaiera de retrouver foi en l'économie avec André Orléans, grand spécialiste de la monnaie. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.